Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La masturbation peut être une pratique sexuelle très épanouissante. Elle permet entre autres l'apprentissage et la connaissance de son corps, de vivre ses envies, ses fantasmes, de découvrir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Cependant, rien d'anormal si on ne se masturbe pas. Comme dans tous les aspects de la sexualité, il ne faut pas se forcer si on n'en ressent pas l'envie. De plus, chacun, chacune sa recette. Il n'existe pas une seule manière de se masturber. Qu'on soit une femme, un homme, célibataire, en couple, jeune, moins jeune, tout le monde a le droit de se masturber. Cependant, on le sait bien, le poids de la masturbation pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Avec mon invité, nous allons parler de masturbation féminine. Valérie Morin est sexologue et coach en intervention psychosociale pour une ligne d'intervention au Québec. Elle a réalisé son mémoire universitaire sur les pratiques masturbatoires féminines. Avec Valérie, nous nous sommes rencontrés à Montréal lors du premier Festivulve en 2018. Valérie anime aussi, avec sa meilleure amie Sarah, un balado, un podcast éducatif et sexo-féministe. Les sex maîtresses que j'adore suivre. Valérie, bienvenue sur le podcast.
Merci Camille, merci beaucoup de me recevoir. Oui, aujourd'hui on va parler de la masturbation.
Trop bien. Ben déjà pour commencer, pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet?
Oui, je me fais poser beaucoup cette question-là. En fait, j'ai réalisé que dans la pratique de la masturbation, c'est comme si il y a comme des freins que les femmes perçoivent moins ou comprennent pas pourquoi. Cette pratique-là est peut-être moins désirée ou... C'est ça, il y a comme des pressions sociales de pas trop aimer la masturbation, de pas vouloir se masturber ou comme, tu sais, que c'est une pratique gênante, que les femmes devraient peut-être pas pratiquer ça ou devraient pas avoir envie de se masturber. Fait que moi, étant fonceuse comme je suis, j'aime ça déconstruire les choses qui sont tabous, j'aime ça m'y intéresser, puis surtout, si ça peut libérer la sexualité des femmes, ben c'est un plus dans, tu sais, selon moi. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis intéressée à la masturbation des femmes. Dans cette pratique-là, il y a comme des enjeux particuliers.
Oui, il y a des enjeux. Et d'ailleurs, dans ton mémoire universitaire où tu parles de ça, tu parles des enjeux et tu parles aussi, du coup, des tabous, des différents tabous, de l'influence que ça peut avoir justement sur cette pratique. Tu parles du tabou de la religion aussi ou du double standard sexuel. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là tout ce poids qui pèse sur les femmes vis-à-vis de la masturbation, ce qui les empêche vraiment d'y accéder et de se sentir complètement libre de préjugés pour le faire?
Ben, c'est une grande question. Il y a plusieurs éléments là, dans ce que tu nommes. Je pense que j'aimerais commencer avec comme le poids qui peut être plus insidieux, celui qu'on comprend un peu moins, qui viendrait de un peu comme l'héritage judéo-chrétien qu'on a. T'sais, ça fait quand même longtemps que la religion puis la médecine dit des choses sur le corps des femmes, sur la sexualité des femmes et sur la masturbation en général, pour les hommes et les femmes, mais particulièrement pour les femmes, qui font en sorte que, rendu encore aujourd'hui, on a comme ce discours-là qui est sous-jacent à beaucoup de choses qu'on va dire au sujet de la sexualité des femmes. T'sais. Fait, par exemple, un moment donné, la médecine disait que la masturbation, en général, pour tout le monde, c'était, t'sais, ça rendait aveugle. Oui. Ça vient de comme longtemps. Là, ça, c'est dans le début du 20e siècle qu'on disait ce genre de truc-là. Puis là, ça a été mélangé avec l'Église catholique disait au sujet de la sexualité en général, mais la masturbation, non, que c'est un péché mortel, que c'est tu vois, punissable par Dieu, da, da, da. Puis ils ont mélangé les deux trucs. Fait que c'était comme si, à la fois la médecine, tu sais, t'allais à la fois souffrir physiquement et au niveau divin de si tu te masturbais. T'sais. Fait que là, ils ont mélangé des trucs. Puis ça, c'est allé ensuite dans la psychologie. Freud en a parlé, etc. Fait que c'est comme ça fait longtemps qu'il y a comme un gros push vers la masturbation, c'est pas bon. Fait que ça, je pense que c'est comme présent dans le, comme je dis, discours sous-jacent, mais tu sais, c'est ça, c'est difficile de décrire d'où viennent les préjugés, là, tu sais, mais ça, c'est quelque chose qui est encore présent, qui nourrit.
Oui, donc il y a eu plein de préjugés, comme tu disais, sur on peut devenir sourd, il va nous arriver quelque chose d'affreux, mais que ce soit les garçons, les filles, les femmes, les hommes, c'est ça?
Exact. Puis ensuite de ça, en général, on le sait un peu là, que la sexualité des femmes a été qualifiée de quelque chose de très passif. On est des êtres de second registre, on est très douce, on est plus faible, etc. Donc, il y a comme toujours eu ce discours-là au sujet, en contraste avec la sexualité des hommes qui est plus active, présente. C'est quelque chose que les hommes ont de la difficulté à contrôler, etc. Tu sais, comme c'est prenant. Ouais. Fait que, en faisant ce contraste-là, on a créé un double standard sexuel aussi.
Parlons-en.
Qui qu'on conçoit la sexualité des femmes comme quelque chose qui est pas, que les femmes ne désirent pas, que les femmes, sur lesquelles les femmes ne devraient pas agir, quand en fait, c'est faux. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu étudier la masturbation des femmes, parce que c'est une pratique sexuelle où elles sont actives. Elles n'ont pas besoin de, je veux dire, des fois, oui, c'est fait avec un partenaire, une partenaire, mais en soi, la pratique t'appartient. T'sais, c'est vraiment toi qui s'en occupe. C'est toi qui réponds à ton désir sexuel par la masturbation si tu en as envie. Fait que c'est vraiment comme agentif comme pratique. Puis ça vient déconstruire les doubles standards un peu.
Reprendre pouvoir sur sa sexualité, c'est ça aussi, comme tu disais, être active, être dans la démarche de répondre à un désir ou même juste, même si te dire, bah tiens, je suis curieuse d'explorer mon corps. Et comme tu dis aussi, cette importance de se détacher aussi, du coup, comme c'est une pratique qu'on peut faire seule, on peut bien sûr faire avec des partenaires, mais là, dans cette pratique seule, bah au moins, il n'y a pas ce poids de qu'est-ce que mon partenaire va penser. Et là, je dis mon parce que c'est souvent, je ne sais pas si tu le vois aussi dans les couples hétérosexuels, où la femme va culpabiliser si elle se masturbe, où elle va dire, bah moi, j'arrive pas à avoir des orgasmes avec mon partenaire, mais par contre, quand je suis seule en masturbation, pas de souci, tout va bien.
Oui, oui. Mais c'est vrai que... Puis là, j'aimerais juste dire que dans ma recherche, c'était une recherche qualitative. Donc, j'ai fait des entrevues avec 13 femmes, ce qui n'est pas très nombreux. Donc, les résultats sont pas vraiment généralisables à la population. Là. Mais c'est vrai que j'ai entendu ça. J'ai entendu ça dans les participantes qui disaient qu'effectivement... Parce que je m'intéressais au moment où ils ont découvert cette pratique-là pour elles-mêmes. Puis en même temps, c'était à l'enfance, et donc c'était un peu plus inconscient. Où c'était plus un jeu, il n'y avait pas comme toute la notion de sexualité ou d'érotique autour de la pratique, mais les femmes hétéros qui l'ont découvert à l'adolescence, là, il y avait cette notion-là de devoir activement choisir cette pratique-là, qu'il soit en couple ou pas, c'est comme je décide de l'essayer. T'sais, fait que ça, c'est comme un... J'ai trouvé ça intéressant comme moment. C'était comme un moment charnière un peu dans leur sexualité parce que c'était comme une reprise de pouvoir, comme tu dis, une espèce de dépassement de soi, tu sais, qui est comme... Puis c'est spécial considérant tout ce qu'on vient de nommer, tu sais, le poids qui est présent, le double standard sexuel, que non seulement la masturbation, c'est mal, mais que les femmes sont pas supposées d'aimer ça ou de vouloir ça même. Puis toi, tu te dis « Non, je vais le faire pareil. » Tu sais, ça prend quand même du « guts », tu sais, ça prend... faut comme...
Ouais, avoir confiance en soi pour le faire et se foutre du regard des autres ou de ce que les autres peuvent penser.
Exact, exact. Oui, le faire en soi.
Et par rapport à ça, justement, quand je parlais de cette notion où elles arrivent à avoir des orgasmes, par exemple, seules, c'est parce qu'en fait, avec... il y a plusieurs situations, c'est que soit avec le partenaire, elles n'osent pas dire vraiment ce qu'elles aiment et donc du coup, elles passent à côté de l'excitation et du coup du plaisir. Soit parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes pratiques, mais il y a tellement le « je suis dans le mental quand je suis avec mon partenaire parce que il faut que je performe, il faut que je jouisse », cette pression-là, que ça coupe le plaisir et l'excitation.
Oui, effectivement. Avec le partenaire, là, c'est difficile. Il y en a qui ont... Dans mon étude, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Il y a des femmes hétéros qui s'étaient jamais masturbées puis qui avaient eu leur première relation sexuelle hétéro, là, avec un homme. Puis, après la première fois, ils se sont dit « Comment ça que c'était pas si plaisant que ça? Comment ça que j'ai pas eu autant de plaisir que ce que je pensais? » Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé « Ben, je vais essayer de le prendre dans mes propres mains, tu sais, de... » Fait que oui, c'est intéressant. Puis la communication, c'est vrai que dans mon étude, je pense, j'ai l'impression que c'était comme, j'ai pas eu assez de temps de m'y pencher, mais c'est vrai que c'est pas parce que tu te masturbes que c'est nécessairement facile ensuite de ça, de soit l'intégrer dans tes pratiques à deux ou à plusieurs. Fait que ce morceau-là est pas nécessairement, c'est pas direct là, comme lien. Ou même d'être capable de dire à son partenaire comme moi j'ai besoin de telle et telle stimulation pendant, avant, après, tu sais, peu importe. Ça prend quand même une ouverture parce que, encore une fois, les espèces de carcans de la recette parfaite de la relation sexuelle, tu sais, la relation sexuelle là, pénétrative, tu sais, il y a des on se french, puis après ça on se touche, puis après ça on a, tu sais, sexe oral peut-être, plus pour l'homme peut-être, tu sais, on le voit dans la porno, là, ça ressemble toujours à la même chose.
Même script.
C'est ça, puis ça finit par, c'est ça, le script sexuel, là, fait que, bref. De déconstruire ce script-là, c'est compliqué aussi.
C'est vraiment pas évident, et aussi toute cette image, représentation qu'on a de la masturbation, parce que tu parlais dans ton étude, du coup, c'est ces premières fois où elle se masturbe, et je sais pas si t'entendais ça aussi dans ton étude, ou même dans ta clinique, au cabinet, des femmes qui vont dire moi je me masturbe pas ou je me suis pas vraiment masturbée, puis quand on creuse finalement si elles se masturbent mais il y a pas de pénétration vaginale, mais souvent dans les représentations c'est masturbation égale je dois me mettre, alors en France on dit on se doit, on met un doigt dans le vagin quoi.
En fait j'ai jamais pratiqué en cabinet, j'ai pas de pratique privée, donc vraiment mes seules expériences de ce que j'entends c'est un peu comme que les gens autour de moi me racontent, parce que forcément, quand tu étudies la masturbation, les gens finissent par te partager leurs expériences avec. Que ce soit vous même ou pas, des fois, c'est des contextes cocasses, là. Mais effectivement, c'est pas la première fois que je l'entends, que la masturbation, ou en fait, qu'un orgasme qui viendrait juste d'une stimulation clitoridienne, serait comme... pas une vraie pratique, pas une pratique sexuelle en soi, légitime en soi. Fait que c'est intéressant. Est-ce que cette stimulation clitoridienne-là, est-ce que ça menait à l'orgasme pour elle?
Ouais, les études montrent que 70 à 75% des femmes ont besoin d'une stimulation clitoridienne externe. Hein, là, on parle du gland du clitoris pour atteindre l'orgasme. Mais que souvent, pour beaucoup, je peux pas le reproduire avec mon partenaire parce que ça fait pas partie du script, hein, tu parlais du script. Ou alors, ça fait pas vraiment partie de la masturbation parce que dans ma représentation de la masturbation, ça doit passer par un doigt dans le vagin, quoi.
Oui. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup aimé déconstruire parce que, outre de décrire comment les pratiques sont survenues dans leur vie, puis tout ça, j'ai aussi demandé, ça ressemble à quoi, tu sais? ça aussi, c'est peu étudié. Quand on étudie la masturbation en recherche, je veux dire, de plus en plus, j'ose croire, mais c'est beaucoup dans les études populationnelles. Tu sais, c'est très est-ce que tu te masturbes? Est-ce que tu arrives à l'orgasme? C'est quoi la fréquence? Tu sais, c'est très quanti. Quand vraiment, il y a une panoplie de façons de se masturber, puis que justement, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de cette stimulation externe-là. Il y a très peu de femmes qui sont capables, tu sais, d'obtenir un orgasme par pénétration. C'est pas le... Fait que déconstruire ça, pour moi, ça a été primordial, tu sais, comme j'ai souligné ça aussi dans mon mémoire, comme les façons de se masturber ressemblent à ce qu'on avait étudié dans les années 70 avec le rapport Haidt, qui est comme la dernière grande recherche sur la masturbation des femmes spécifiquement. Ça disait exactement ça. Puis ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé en comme 50 ans.
Et alors qu'on serait peu intéressé au clitoris, on s'y intéresse peut-être encore plus là maintenant ces dernières années, mais je veux dire, c'est pas tout nouveau. Tu vois, le rapport Haidt, c'était en 76, quelque chose comme ça, dans les années 70. Donc, il y a dû y avoir une autre génération avant que vraiment on s'empare du clitoris et qu'on dise allez-y, vous pouvez vous masturber le clitoris, c'est tout à fait OK. C'est pas, c'est une sexualité mature. Tu parlais de Freud.
Oui.
Freud qui disait que si on se touchait ou on se masturbait le clitoris, c'était pas très mature, c'était pour les petites filles, alors que les femmes, elles doivent passer par la pénétration.
Pour Freud, pour vrai, c'est dommage, mais non, je vais dire autrement, je vais dire en fait que Freud, c'est une figure importante dans la psychologie moderne, là, comme si on n'avait pas eu les concepts de Freud, on serait pas où on est actuellement. Mais les choses qu'il a dit sur la sexualité des femmes, c'est aberrant, hein, tu sais, c'est vraiment dommage qu'il a dit ça, parce que ça aussi, ça a bloqué plein de femmes, puis ce discours-là a comme forgé des préjugés, qui a forgé comment on apprivoise notre corps, notre sexualité, puis comment on l'agit aussi, tu sais, c'est comme, encore aujourd'hui, je me demande, toi, dans ton cabinet, tu sais, est-ce que t'entends... des femmes qui disent encore qu'ils sont frigides.
Oui.
Puis ça, c'est super désuet comme concept, mais ça...
Oui.
T'sais, Freud, c'est le début du 20e siècle aussi, puis c'est comme, hey, ça fait 100 ans, là, on peut-tu en revenir de la frigidité?
Oui, il y a encore ce terme. Il y a encore ce terme, alors, pas courant, pas tout le temps, mais plus peut-être chez les femmes plus 40, 50 ans, ou les hommes qui décrivent ça. Et donc, bien sûr, pareil, c'est... de venir déconstruire et dire « mais ça n'existe pas, ce terme, ça n'existe plus ». Et de venir expliquer, en fait, c'est juste une question de, comme on parle de la masturbation, de se connaître et de pouvoir expérimenter et de pouvoir dire aussi qu'il y a des pratiques qu'on n'aime pas aussi, parce qu'il y a beaucoup de, et là je parle de femmes puisque c'est le sujet du jour aussi, mais de femmes en consultation qui viennent et qui... n'ont plus de désir, ne sont pas satisfaites de la sexualité et on pourrait leur coller l'étiquette rigide, alors qu'en fait, quand on creuse, c'est qu'en fait, ce qu'on leur propose ne leur convient pas. Ou qu'elles n'arrivent pas à le dire au partenaire pour faire différemment, mais qu'elles prennent du plaisir toutes seules, mais qu'avec le partenaire, c'est plus difficile. Ou que, des fois, malheureusement, le partenaire n'est pas à l'écoute de ça aussi. En fait, quand on creuse, il y a tellement de subtilité, comme tu disais, quoi. On ne peut pas juste dire « est-ce que vous masturbez ?» En fait, c'est... Parce qu'il y a plein de femmes qui diraient non, alors que quand on creuse, c'est déjà de la masturbation, ce qu'elles font, mais elles n'ont peut-être pas conscience aussi, comme tu parlais des petites filles, évidemment, c'est pas en lien avec la sexualité, même si ça fait du bien.
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis aussi, j'aimerais revenir à un autre morceau qui m'a vraiment intéressée dans ma recherche, mais par rapport à la découverte de la masturbation, comme tu dis, tu sais, les hommes qui sont moins au courant, ce que leur partenaire veut, puis les femmes aussi qui ont de la difficulté à l'exprimer, soit parce qu'ils ne le savent pas elles-mêmes, ou savent pas comment le dire, ou en tout cas, ça me fait penser à un moment, un autre espèce de moment charnière où les premiers comme chums blondes que t'as, ou t'sais, début du secondaire, là, genre à 12, 13, 14, 15, t'as ton copain. Ton premier copain. Si lui... Parce que pour les garçons, c'est comme plus évident. C'est plus... c'est dans ta face, premièrement, hein, on va se le dire. Fait que eux, leur pratique masturbatoire, que j'ai pas étudiée d'ailleurs, mais, tu sais, on en parle dans l'humour. Tu sais, comme il y a des jokes là-dessus. Les humoristes, ils parlent constamment. Tu sais, comme, ils aiment beaucoup leur pénis en général. mais ils parlent aussi beaucoup de leur pratique masturbatoire, ou ils font allusion à leur pratique masturbatoire. Puis ça aussi, c'est intéressant parce que c'est comme comment ça qu'il y a, que c'est possible d'avoir une connotation sexuelle masturbatoire. C'est facile pour un homme de parler de ça, de faire un stand-up là-dessus, tu sais. C'est parce que dans la notion, comme dans l'inconscient collectif, tout le monde comprend que les jeunes ados ou à l'adolescence, les gars découvrent leur masturbation, prennent plus longtemps dans la douche pour faire ça, etc. Puis il y a plein de moments cocasses desquels on peut rire. Mais pour les femmes, c'est moins évident.
C'est no way.
Exact. Fait que là, puis ça, c'est intéressant parce que ça fait aussi en sorte que peut-être ton premier copain en tant que fille hétéro, ben là, lui, ça fait déjà 2-3 ans qu'il sait exactement quoi faire. Il touche depuis longtemps, il l'a découvert longtemps, il sait comment éjaculer, il sait à quel moment il éjacule, la pression, la sensation. Il a peut-être même essayé loup, pas loup, savon, tu sais, peu importe. Puis peut-être que si toi, t'as jamais touché tes organes génitaux, t'es jamais vraiment regardé, qui est comme, tu sais, il faut quand même que tu squattes sur un miroir ou quelque chose de plus complexe, là, tu sais, que juste quelque chose qui t'arrive en pleine face le matin. Ben, t'es à des années-lumière, là. Fait que non seulement tu te connais pas, mais aussi, ben, comment tu veux commencer à expliquer à ton petit copain comment te toucher pour toi aussi arriver au plaisir, tu sais. Ouais, c'est fascinant.
Oui, parce qu'on part pas, et c'est vrai qu'en séance aussi, pareil, souvent on dit, elles ressentent bien ce décalage avec leur partenaire masculin, et souvent j'explique que, bah, oui, si on prend un couple hétéro de 25 ans, eh bien, le garçon, il a peut-être déjà 15 ans de pratique masturbatoire versus si la fille, elle commence à peine ou il y a quelques années, bah ouais, on part pas sur un pied d'égalité en termes de connaissance de son corps et de plaisir et d'être à l'aise avec ça.
Mm-hmm. C'est exactement pour ça que c'était primordial pour moi d'avoir un angle féministe dans mon mémoire. Parce qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Il y a comme une injustice dans cette pratique-là, tu sais, avec le double standard, avec les choses qu'on en dit dans la société, avec l'inconscient collectif, etc., mais aussi comme de très, très concrètement dans le couple, tu sais, ça peut, là, ça amène à des décalages, ça amène à une sexualité qui est peut-être moins épanouie, t'as peut-être moins plaisir, puis c'est très inconfortable, là, tu sais pas trop, c'est comme... Puis là, tu sais, aussi, qu'est-ce qu'on va te dire pour y arriver? Mais c'est, en même temps, c'est faut que tu le reprennes, faut que tu prennes sur toi, tu sais, faut que toi-même, tu fasses le travail. Mais il y a des gens de l'extérieur qui te disent, oh, t'es clairement pas à la même place que moi là-dessus. Fait que c'est un peu comme gênant, tu sais. En tout cas, il y a plein d'affaires là-dedans que j'étais comme si on en parle un peu plus, tu sais, si on déconstruit des choses, ben peut-être que la prochaine génération de femmes aura encore moins à délai avec ça. T'sais, peut-être qu'eux vont être encore mieux capables de, d'atteindre leur orgasme, de dire ce qu'elles veulent, de dire ce qu'elles veulent pas, d'intégrer leur masturbation dans une relation sexuelle qui est pénétrative, etc., etc. Puis là, on parle de féminisme. Là, on parle d'une reprise de pouvoir sur son corps. Puis...
On espère ça. Est-ce que dans ton étude ou dans ta connaissance... parce que là, on parle des femmes, surtout dans les couples hétéros. Est-ce que c'est la même chose vis-à-vis de la masturbation pour les femmes hétéros, pour, enfin, peu importe l'orientation sexuelle, mais en tant que femme? Est-ce qu'il y a une différence si, par exemple, ben, on est lesbienne, si, par exemple, on est bi? Est-ce qu'on est peut-être à l'aise avec ça? Est-ce que tu sais ou pas?
Je peux difficilement dire pour comme, la population, mais dans mon étude, il y avait quelques femmes lesbiennes et une personne bisexuelle, me semble. Puis... oui, pour elle, c'était comme... En fait, le décalage était vraiment moins présent. Je veux dire comme ça, parce que, dans le fond, cette rencontre-là avec l'autre, il y avait peut-être les soupçons habituels, là, comment... Quand on commence... Il y a toujours un éveil sexuel un peu au début de l'adolescence, comme tout le monde commence à comprendre un peu que, comme, la sexualité, c'est quelque chose... On commence à t'en parler, la puberté, tu vas peut-être avoir des envies, tu sais, comme on commence à parler du sexe. Fait que les ados sont comme au courant qu'il y a du sexe à avoir, tu sais, puis c'est comme quelque chose de le fun, puis ça, qui est contrairement différent aux enfants, là, qui sont pas là-dedans du tout, là. Il y a pas de notion de, comme, je veux faire le sexe, tu sais. Mais les ados, oui. Puis en fait, la découverte de la masturbation ou de la sexualité à deux, entre filles, ben là, t'avais comme une découverte mutuelle, tu sais, puis c'est comme, t'as le même corps, puis t'as peut-être les mêmes préjugés en tête, ou t'as peut-être les mêmes carcans qui sont comme un peu en suspens, fait qu'il y a comme une espèce de, ah, oh, OK, ben on peut aller au même rythme parce qu'on est à la même place, tu sais, moi, ça fait pas... Mais ça se peut que ça soit différent, là. Ça se peut que je dise ça, puis ce soit juste un exemple parmi tant d'autres, mais ça se peut aussi qu'il y ait des décalages femmes lesbiennes qui découvrent leur corps, là, ça, c'est probable. Mais c'est ça, c'est plus comme, ben vu qu'on apprivoise un peu le même organe génitaux, il y a comme les mêmes discours au sujet de nos corps, au sujet de notre sexualité, ben on part déjà un petit peu plus sur les mêmes bases, tu sais. Fait que cette introduction-là à la masturbation ou à la sexualité en général est plus, je vais dire saine, mais comment je peux dire, comme parallèle ou tu sais, comme...
Ouais, je sais pas. Je pense que je te rejoins là-dessus, mais pareil, j'ai pas d'études. En plus, je pense que les études, souvent, elles s'intéressent pas trop à ça ou déjà. Mais je pense qu'effectivement, le carcan d'être une femme sur la masturbation, je pense qu'il a la même chose, peu importe l'orientation sexuelle. Par contre, effectivement, dans un couple de femmes... Eh bien, si, comme elles ont eu ce même carcan, et alors pareil, là, c'est des généralités, mais elles ont peut-être commencé au même moment, versus que quand on est en couple avec un homme qui a commencé beaucoup plus tôt, peut-être même une dizaine d'années plus tôt, alors que là, on part un petit peu, comme tu disais, on démarre un petit peu au même moment, quoi.
Puis aussi, maintenant que j'y pense, il y a aussi cette notion-là de comme, quand tu commences à avoir une sexualité, en général, si tu suis... les tendances comme de la société en tant que femme hétéro, ben il y a beaucoup de non-dits parce que c'est tout scripté, tu sais. Fait que tu sais un peu à quoi t'attendre, puis tu sais un peu quoi faire. Tu sais, comme tu l'as vu dans les films, tu l'as vu dans la rue, tu sais, c'est plus accessible pour toi les mœurs que t'es supposé de... Tandis qu'en tant que femme lesbienne ou en tant que personne queer même, tu pourrais pas avoir été exposé à ce genre de sexualité-là ou comment ces corps-là habitent ensemble dans leur sexualité. Et donc, il faut comme que tu le crées toi-même. Fait que ça, c'est comme... Tu sais, tantôt, on parlait du dépassement de soi que la masturbation va peut-être nécessiter pour les femmes. Mais pour une femme lesbienne ou une femme queer même, c'est comme... Faut que tu déconstruis d'autres affaires. Faut comme que tu te dépasses avant. Faut d'abord que tu te dises, OK, je pense que j'attire envers les femmes. Comment je fais ça, moi, être attirée envers une femme? T'sais, comment je fais ça, avoir une sexualité envers une femme? J'ai-tu le droit de frencher ma blonde dans la rue? C'est comme toutes ces choses-là que c'est comme, OK, ben je me dépasse. Fait qu'arriver à la masturbation, c'est comme si c'est comme, OK, j'ai déjà déconstruit bien des affaires, là, c'est peut-être plus facile à ce niveau-là. Puis en plus, ma partenaire devant moi, peut-être qu'elle a traversé les mêmes trucs. Fait que, ouais, il y a comme déjà des... C'est comme, faut que tu sois... Ouais, c'est ça, faut comme que t'aies...
Oui, il y a des ponts qui sont créés comme ça parce que y a déjà eu de part en étant lesbienne, queer, LGBTQIA+, en fait, on est déjà obligé de repenser la sexualité, obligé de déconstruire tout ça. Et donc, il y a déjà tout ce cheminement, cette réflexion et sûrement peut-être cette ouverture vis-à-vis de la sexualité qui est là aussi.
Oui, oui. Puis ça permet une plus grande créativité. Puis quand tu découvres une pratique qui nécessite une créativité, quand même, tu sais, parce que ton corps est différent, ton clitoris est peut-être plus sensible, moins sensible, tourner, peser, frotter, tu sais, c'est quoi que tu as besoin, ben, si t'es déjà dans un milieu qui promeut la créativité, ben là, c'est peut-être plus fécond, tu sais, pour découvrir qu'est-ce que toi, t'as besoin, qu'est-ce que t'aimes pas.
Tu cites souvent le féminisme dans ton mémoire ou dans ton travail de manière générale. Quelle est, selon toi, l'influence des approches féministes sur la vision de la masturbation?
Ben, je pense qu'on le nomme un peu depuis le tout début, tu sais, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la reprise de pouvoir des femmes sur leur corps puis leur sexualité, parce que c'est beaucoup ça qui est réprimé. Le corps des femmes et la sexualité des femmes a été beaucoup opprimé dans les dernières centaines d'années. Fait que je pense que c'est les causes féministes touchent souvent la sexualité, la sexologie en général vient de plusieurs courants féministes qui a mis sur la table l'importance de la sexualité pour les femmes, que c'est comme particulièrement pour nous, on a eu à faire des enfants et des enfants et des enfants, on a eu à vivre peut-être des mutilations génitales dans nos cultures, on a eu à que des personnes qui ne sont pas nous décrivent notre sexualité comme étant quelque chose de passif, quelque chose de doux, puis faible, puis tout. On meurt dans le champ, on gambade, c'est comme... Puis en réalité, c'est probablement pas ça. Et donc, les féministes étaient des premières personnes à dire non. C'est comme, on va le décrire pour nous-mêmes. Voyez notre sexualité, voyez comment ça peut être dévergondé, voyez comment ça peut être libre et créatif et qu'on a du désir autant que les hommes, qu'on sait quand on est excité, qu'on sait quand on veut du sexe, quand on veut pas du sexe, on sait quel genre de sexe qu'on veut, on sait, tu sais, de permettre cette voie-là. Fait que ça faisait juste trop de sens, tu sais, d'impliquer tout ce que les causes féministes ont dit au sujet de la sexualité des femmes dans mon mémoire.
Ouais, de venir libérer. Puis là, on voit bien aussi la nouvelle génération, la bulle sexo aussi, qui parle de plus en plus de masturbation, de ses bénéfices, des différentes techniques, même si, comme je disais, il n'y a pas de recette particulière, c'est à vous de trouver, à vous de voir, à vous d'écouter votre corps. Mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les bénéfices pour les personnes qui ont envie et qui souhaitent se masturber et qui prennent du plaisir? Quels peuvent être les bénéfices, justement, de la masturbation?
Les bénéfices de la masturbation, premièrement, il y a probablement un impact sur ton estime de toi sexuelle. T'sais. Probablement qu'il y a une petite fierté quand même qui était nommée, puis qu'on peut probablement bien imaginer là, d'être capable de faire ça pour son corps puis de le faire pour nous-mêmes. Il y a comme une petite fierté justement de ce contrôle-là qu'on peut avoir. Fait que ça, je pense que c'est un bénéfice un peu sous-jacent là, à la pratique, on va se le dire. Mais sinon, il y a comme... Oui, c'est vrai, il y a plein de bénéfices, là, des études qui ressortent des bénéfices physiques, là, comme relâchement des tensions, relâchement du stress, peut-être... en tout cas, je sais pas trop, là. Je vais pas le dire parce que je suis pas certaine de mon truc. J'allais dire, comme peut-être des bénéfices comme régulation du cycle menstruel, j'ai entendu ça, fait que peut-être quelque chose au niveau des hormones.
J'ai pas entendu non plus, je saurais pas dire, mais oui, au niveau physique, la détente du corps, que tu peux être baigné dans un bain hormonal de justement la sérotonine, l'ocytocine, donc de te sentir bien aussi après. Mais ça permet par contre, quand tu as tes règles ou même dans ton cycle, effectivement, si tu as des douleurs, des choses comme ça, ça permet de venir réduire ce volume de douleur aussi, parce que on vient ajouter du plaisir, on vient réduire le stress.
Ouais. Oui, et puis il y a aussi, tu sais, une aisance corporelle ou une estime de toi physique, là, qui peut peut-être à la longue ou même spontanément, tu sais, que, comment je peux dire ça? Quand tu te masturbes, il n'y a pas personne qui se masturbe puis que dans le moment se trouve laide, tu sais. J'ai pas l'impression. Ça se peut, là, je veux dire, ça se peut que ça soit ça par la suite. Mais dans le moment, par exemple, t'es dans le moment, tu sais, fait que c'est vraiment... t'es capable de outrepasser tous les trucs qu'on pourrait se dire au sujet de notre corps, tu sais, comme « Ah, je suis grosse là » ou « J'ai du poil là » ou « Je suis pas satisfaite » ou « J'ai un bouton d'en face ». Tout ça, si moi, je suis en train de me masturber puis j'ai un orgasme, c'est pas mal la dernière chose à laquelle je vais penser. T'sais. Fait qu'il y a comme une... On cultive un peu des bonnes choses au sujet de notre corps. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Je suis capable d'obtenir un orgasme. C'est ça. Je l'ai nommé, je vais le redire, mais t'sais, l'affirmation de soi, t'sais, se sentir autonome, se sentir indépendante, ça peut être aussi une façon d'explorer ses fantasmes, d'explorer ton imaginaire érotique. Fait que ça peut faire partie de ton épanouissement sexuel, si c'est ça que tu as envie d'explorer.
Oui, on voit qu'il y a pas mal de choses. Juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais, sur quand il y a un orgasme, de façon on s'en fiche de la manière à quoi on ressemble ou notre corps, oui. Et il y a quand même certaines personnes qui peuvent se mettre la pression aussi au niveau de la masturbation et de se dire « là, j'y arrive pas » ou « alors je suis nulle parce que j'arrive pas à avoir un orgasme », etc. Ou vraiment « qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui se mettent une pression aussi par rapport à la masturbation et qui, du coup, c'est pas une expérience agréable au final parce que ça devient très anxiogène?
Mm-hmm. Je pense que la première chose que j'aurais envie de leur dire, c'est intéressez-vous au processus. C'est ça, juste ça. Intéressez-vous au processus. Dans le sens, allez chercher les tout petits détails de son corps puis qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il réagit. Qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui est moins? Ah, ça me plaît moins. Tu sais, comme d'aller s'intéresser au processus. ça fait en sorte que tu es plus dans un mode micro, puis tu es moins dans un mode macro de performance ou de rechercher les résultats ou d'avoir un objectif en tête, puis de viser cet objectif-là. Je veux dire, là, on...
Être à l'écoute, quoi, vraiment, de ce qui se passe dans le corps, du coup, au niveau micro.
Exact, exact. Tu sais, comme, quand je me touche là, tu sais, je lubrifie plus. Ou, on dirait que, même avec un miroir, là, comme tu peux le voir, tu sais, comme, mes organes génitaux sont plus engorgés de sang, tu sais, comme mes lèvres sont plus bombées, etc. Si on implique, d'autres endroits, ça peut être d'autres sensations aussi, tu sais, dans la douche, il y a l'eau, c'est chaud, c'est froid, il y a du liquide, etc. Tu sais, comme, intéressez-vous aux détails, puis ça va peut-être faire en sorte que ta tête va être moins intéressée à être dans un mode spectateur de performance ou de quoi que ce soit, tu sais.
On revient au moment présent, à la pleine conscience, justement. J'aime bien ce que tu disais, être plutôt au niveau micro, et ce que je répète souvent, être à l'écoute de ces sensations corporelles pour essayer de faire abstraction du macro, même s'il peut revenir, même s'il y a des pensées qui peuvent arriver, mais de se reconnecter à soi, à ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Et alors, on parlait des bénéfices, et par rapport alors à la masturbation aussi mutuelle, quand on est en couple aussi, est-ce qu'on peut pratiquer la masturbation? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça peut faire?
Oui, bien, la masturbation mutuelle, ça peut être... Il y en a qui vont peut-être penser que c'est comme une pratique qui est reléguée peut-être plus aux adolescents, parce que c'est quand même une pratique qui n'est pas pénétrative ou qui peut ne pas être pénétrative. Et donc, il y a moins de risque de TSS, il y a moins de risque de grossesse, etc. Fait que c'est comme une pratique « safe », entre guillemets, pour les ados. Mais, et aussi, c'est une des premières pratiques peut-être que tu vas faire en tant qu'ado. Fait que aussi, comme il y a cette connotation-là que ça devrait rester dans ce, tu sais, à cet âge-là, mais au contraire, moi, je crois que c'est vraiment une pratique intéressante à pratiquer aussi à l'âge adulte avec des partenaires, avec des nouveaux partenaires, parce que c'est comme se masturber séparément, mutuellement, tu sais, ensemble ou séparés comme un à côté de l'autre, chacun de leur bord. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme si on participe les deux à se donner du plaisir, mais on est comme, tu sais, il y a comme des choses que l'autre va vivre qui t'impliquent pas, mais qui t'excitent quand même, tu sais, fait qu'il y a comme une notion de partage, mais séparé. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant comme pratique. Il y a plein de choses là-dedans qui peuvent... C'est un grand moment de vulnérabilité aussi, quand même, parce que c'est comme, ça peut être... Si la masturbation, pour toi, c'est une pratique privé, que tu fais souvent seul, puis que là, ton ou ta partenaire te demande de partager, ben ça peut être un grand moment de vulnérabilité. Il peut avoir une petite gêne, un petit inconfort, tu sais, ça peut, au bout de la ligne, même augmenter la connexion intime d'un couple, peut-être. Tu sais, ça peut être mis à part du fait que c'est une pratique alternative vraiment intéressante pour tout ce qui est postpartum, cancer, tout ce qui est oncologie, genre de gastro-intestinale, des personnes avec des stomas, des personnes qui ont eu des chirurgies, des personnes qui sont comme en convalescence, mais qui veulent continuer à alimenter leur sexualité de couple, ça peut être une option vraiment intéressante pour ça, tout aussi intime.
Tout aussi intime et bien plus qu'une option, c'est une pratique à part entière de la sexualité. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de couples, et c'est important peut-être de le souligner aussi là dans le podcast, on imagine que les couples, quand ils ont de la sexualité, ça passe par de la pénétration. Mais il y a aussi en fait beaucoup de couples qui vivent de la sexualité avec des pratiques non pénétratives et qui sont très heureux, très satisfaits comme ça, et qui le font tout le temps, ou pour d'autres, ça va être dans des périodes de la vie selon les préférences, ou pour d'autres, ça va être des périodes de la vie selon des obstacles rencontrés, comme peut-être une impossibilité de pénétration, du vaginisme, ou alors des douleurs, il y a peut-être en postpartum, ou une blessure, ou un cancer, ou des troubles de l'érection, etc. Et la masturbation mutuelle, c'est, comme tu disais, un chouette moment de partage aussi pour l'un, pour l'autre. Ça peut être fait de mille et une façons, soit l'autre des personnes se masturbe et l'autre regarde, soit c'est les deux qui se masturbent. Enfin, ça permet de faire monter l'excitation et le plaisir en toute autonomie aussi.
Exact. Oui, c'est ça. Non, moi, j'encourage beaucoup. Des fois, c'est choquant de demander à son partenaire de, tu sais, reste là un instant, je vais juste terminer de mon côté, tu sais, mais je veux que tu sois là avec moi, mais ça va être moi qui va s'en occuper, tu sais, de mon orgasme. Fait que ça peut être un peu confrontant, surtout quand on parlait, tu sais, d'une sexualité des hommes hétéros qui est plus active, c'est les gars qui vont donner le plaisir aux femmes, tu sais. Fait que s'ils sont comme plus dans ce rôle-là, ça peut être difficile pour eux peut-être de lâcher prise de ça, puis de regarder en plus la femme le faire tout seul, tu sais, c'est comme...
Il y a tellement d'enjeux, là.
La face que t'as pas besoin de lui, tu sais, de sa pénétration. Mais c'est ça. Bon, si c'est bien pris, ça peut être un beau moment intime, là, tu sais.
C'est clair, ça peut être merveilleux, mais encore une fois, j'ai l'impression quand même pour une majorité où ça semble difficile, quoi, que je me permets pas de continuer à masturber après que, par exemple, il ait fini d'éjaculer parce que, bah, il va croire que finalement, il n'était pas suffisant, que parce que j'ai pas eu ma dose, que si, ou lui, il va se poser, enfin, voilà, on voit tous les enjeux qui peuvent y arriver. C'est bien d'arriver à se détacher de ça, finalement, et que chacun est autonome aussi dans son plaisir, si on arrive à se dire ça. Bah, en fait, on ne prend pas personnellement ce qui se passe. Il peut y avoir mille et une raisons que là, on a juste envie de se masturber soi-même aussi.
Oui, exactement.
Alors, la masturbation, avec ou sans sextoys?
Ah, c'est une bonne question. Ben, je veux dire, il n'y a pas de... Comme j'adhère aussi à ton message, il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de baguette magique là, qui existe pour ça. Je veux dire, si c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, si toi, les doigts, tu sais... On peut trouver ça salissant, là. On peut trouver ça dégueu. On peut pas aimer l'odeur de notre corps. Je veux dire, moi, j'encourage d'explorer ça parce qu'il y a probablement des choses à déconstruire à ce niveau-là. Mais si pour partir le truc, pour commencer de s'apprivoiser de son corps, on préfère utiliser un sextoy qui est plus un contact indirect, ben go for it, là. Il y en a en masse sur le marché et de plus en plus des sextoys qui sont pour les femmes qui se masturbent. C'est pour les femmes qui se masturbent le clitoris externe. C'est vraiment très spécifique. Il y en a qui ressemblent à des paumes de main. C'est fait que c'est comme une machine comme ça, puis tu fais juste...
Non.
Puis c'est la machine qui fait la job, tu sais. Il y en a des pour des contacts plus, plus précis, genre des petites langues qui vibrent. Il y a des trucs aussi pénétratifs. Je veux dire, le marché là, commence à vraiment comprendre que finalement, les femmes sont capables d'être autonomes et indépendantes avec leur sexualité, puis... Bon, ils en ont profité, mais je veux dire, c'est aussi à notre avantage d'essayer ces trucs-là, si ça nous chante, tu sais.
Exactement, et que c'est une option, c'est un outil supplémentaire, donc c'est chouette que ce soit à notre disposition. Après, on en fait ce qu'on en veut, et il y en a tellement que, en fait, bah voilà, d'explorer, parce que bah, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes intensités. Un même objet ne va pas faire le même effet sur une personne ou sur une autre, donc vous êtes tout à fait normal si cet objet ne vous fait rien, alors que toutes les autres copines vous ont dit que c'était extra.
Ouais.
Chacune ses recettes, chacune ses choses, sans obligation. Les jouets, on peut les utiliser seuls, on peut les utiliser à deux, à plusieurs, ou ne pas en utiliser du tout. C'est tout à fait OK. Je crois que c'est le message qu'on souhaite passer aussi aujourd'hui vis-à-vis de l'épisode de la masturbation.
Puis aussi, tu sais, ça coûte cher, ces jouets-là. Il faut savoir bien les entretenir. Il y a des produits pour les nettoyer, etc. Il y a comme des bonnes pratiques avec les jouets. Fait que si c'est comme trop... une montagne, tu sais. On peut commencer juste avec les mains ou autres objets inanimés, là, des coussins, des coins de lit, des pompes de douche téléphone, tu sais, comme il y a plusieurs autres options qui sont peu coûteuses. faites attention à vos organes génitaux, s'il vous plaît, mais tu sais, oui, on peut explorer autrement.
Fait avec les objets du quotidien, bien sûr, on ne va pas introduire n'importe quoi dans notre anatomie ou n'importe quel produit sur notre corps, ça faut faire attention, mais bien sûr, on a déjà plein d'objets sous la main quand on regarde tout autour de chez nous. Donc, comme tu disais, c'est la créativité, la curiosité sont les maîtres mots. Et justement, quand je parle de maîtres mots, ma question finale, c'est si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de l'éducation sexuelle ou de la sexualité, quelle est la première chose qui te vient en tête?
Une chose à retenir au sujet de l'éducation à la sexualité, je crois que c'est l'éducation à la sexualité, dans le fond, c'est un outil pour commencer à avoir construire une pensée critique au sujet des pratiques sexuelles en général, mais surtout de tous les carcans dont on a parlé, tu sais, la façon que la société réfléchit la sexualité en général, mais la sexualité des femmes particulièrement. Il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Puis Je pense que l'éducation à la sexualité, c'est un premier pas dans la bonne direction pour aiguiser cette pensée critique-là pour toi-même personnellement, mais pour une, tu sais, des citoyens sexuels. On est, tu sais, on entre en lien l'un l'autre, on se côtoie, on se date, on a des relations sexuelles ensemble. Pourquoi ne pas y réfléchir? Tu sais, pourquoi ne pas s'attarder à aux choses qui nous freinent dans la sexualité ou qui nous causent des souffrances, des détresses, des inconforts qui n'ont pas lieu d'être. T'sais.
J'adore. C'est vraiment l'objectif de ce podcast, qu'on puisse penser, réfléchir à la sexualité ensemble. Et c'est d'ailleurs aussi ce que tu fais dans ton podcast. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, nous expliquer ce qui s'y passe dans ce podcast, avec qui tu l'animes?
Oui, mon podcast qui est un projet pandémique quand même, qui a commencé avec mes colocataires, avec qui j'ai aussi complété la maîtrise en sexologie. Donc, on était les trois diplômés de la maîtrise en sexo assis dans notre salon, ayant des conversations qu'on trouvait vraiment intéressantes. Puis on s'est dit, probablement que les gens aimeraient être des petites mouches sur le mur, là, pendant qu'on a nos conversations un peu, des fois qui peuvent être enflammées au sujet d'enjeux sexo, au sujet d'enjeux féministes. Fait qu'on s'est dit, on va le rendre accessible. Donc, on s'est parti un podcast. En fait, avant ça, on a aussi fait comme 15 semaines de soirées thématiques pour se divertir pendant la pandémie. Là. Puis là, on s'est dit, on va faire quelque chose où on sert de notre intelligence. Et d'où l'idée du podcast. Mais c'est ça, c'est un podcast éducatif, pédagogique, sexo-féministe. Donc, on prend un concept à la fois, puis on essaye de faire réfléchir les gens. Fait que si au bout de l'écoute de l'épisode, on t'a fait réfléchir à une chose, on a semé une graine dans ta tête, ben nous, on a fait notre job, tu sais. Si on a réussi à déconstruire des trucs, ben là, c'est encore mieux. Puis si on a réussi à tellement éblouir ou déconstruire un truc tellement important que tu pensais pas jamais déconstruire dans ta vie, puis que là, tu réussis à en parler à un ami ou à ton entourage, là, on a vraiment réussi notre travail, tu sais, parce que dans le fond, c'est ça qu'on encourage, que les gens en discutent entre eux.
Ouais, mon épisode préféré de Sexe Maîtresse, c'est celui sur le CUNY. J'ai vraiment adoré l'écouter. Donc, je recommande aussi, puis je recommande le podcast. Valérie, merci beaucoup pour ton temps. Merci de t'être levée ce matin avec ta tasse de café et d'avoir participé à ce podcast depuis Montréal. Je te remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Camille. Ça m'a fait plaisir de jaser avec toi ce matin.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode. Donc, merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme. Et donc, j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité, qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité. Laissez dès à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon, où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.